Ésaïe chapitre 66 versets 2 et 5. Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elles, dit l'Éternel. Et voici à qui je regarderai. À celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à ma parole. Verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Vos frères qui vous haïssaient, qui vous rejetaient à cause de mon nom, ont dit que l'Éternel montre sa gloire. Il sera donc vu à votre joie, mais eux seront honteux. Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour et que le Seigneur vous bénisse et bon sabbat à tous. L'étude que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, je l'ai intitulée « Expérience d'opposition et de séparation ». Expérience d'opposition et de séparation. Et ce n'est pas une expérience que j'entreprends à la légère, parce que à travers les années, j'ai pu constater que c'est précisément la peur de ces deux facteurs-là, l'opposition et la séparation, qui font que de nombreux soi-disant disciples de Jésus-Christ renoncent à la croix et repartent vers l'Égypte. J'ai vu cela à travers les années, et c'est pour ça que je sais à quel point ce sujet est chargé de sens, chargé d'importance, et combien il est décisif pour nous, tout un chacun, vis-à-vis de la manière dont nous allons et dont nous réagissons face à ces menaces d'opposition et de séparation. Mais dans cette étude aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est tourner attentivement nos regards vers l'histoire d'opposition et de séparation dont l'Église de Dieu a si souvent fait l'expérience à travers les âges, à savoir depuis le début de l'humanité, le début de l'Église de Dieu, jusqu'à ces derniers temps. Nous voulons regarder sur l'expérience de l'Église de Dieu à travers les âges vis-à-vis de cette expérience de l'opposition et de la séparation, à travers les âges, pour pouvoir surtout nous concentrer sur ce qui se passe en ces derniers jours. Et pour commencer par voir comment cette expérience d'opposition et de séparation s'est pour la première fois manifestée dans l'histoire de l'humanité et de l'Église de Dieu sur la terre, eh bien, nous nous tournons vers l'histoire de Caïn et d'Abel. Dans l'histoire de Caïn et d'Abel, que nous retrouvons dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 9, nous apprenons, je ne vais pas y aller, mais j'aimerais réitérer pour nous rafraîchir la mémoire, nous apprenons que Caïn et Abel s'étaient présentés devant l'Éternel, chacun avec une offrande. Abel s'était présenté devant l'Éternel avec l'offrande qui avait été stipulée, à savoir l'offrande d'un animal sans tache, qui venait préfigurer le sacrifice de Christ. Mais lui, Caïn, s'est présenté avec les premiers fruits de son champ. Il aurait très bien pu amener un animal, mais il venait amener ses propres œuvres, telles que l'esprit de la prophétie l'élargit à notre entendement dans le livre Patriarches et Prophètes. Mais j'aimerais lire un très bref résumé qui nous permette de passer très succinctement à travers les âges sur différentes expériences d'individus parmi les patriarches. J'aimerais pour cela qu'on se tourne vers le passage de 1 Jean, 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 12, où c'est exprimé de manière très succincte, ce qui nous permet de contempler plus rapidement le cœur du problème qui se manifesta dans le cœur de Caïn, mais surtout dans la relation entre Caïn et son frère Abel. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 11 et 12, nous lisons. Car le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et donc, quand vous regardez en arrière vers l'expérience qu'a faite Abel en relation avec son frère Caïn, vous voyez que Abel fut le premier à recevoir l'opposition de son frère dans le contexte de l'Église de Dieu, parce qu'ils venaient offrir leur sacrifice de culte. Hein? Leur sacrifice, c'était leur culte. Vous comprenez? Avant qu'il y ait eu tout le sacerdoce d'Aaron et de Lévi, et de la tribu des Lévites. Mais ici, Abel fut le premier à recevoir cette opposition et cette séparation sur laquelle nous voulons nous concentrer pour pouvoir étudier à la lumière des expériences passées, à quelles expériences aussi nous pouvons nous attendre dans le présent, vis-à-vis de ces activités-là. Donc, Abel reçut l'opposition de son frère, et Abel fut séparé de son frère par la mort. Donc, c'est un peu une exception à la règle que j'aimerais ici tracer à travers la parole de Dieu, pour ensuite que nous puissions arriver jusqu'à l'exemple de Christ. Donc vous avez l'opposition et ensuite la séparation. Il fut séparé de Caïn qui lui était opposé, mais là par la mort. Et c'est intéressant parce que dans Christ Triumphant, page 51, paragraphe 2, il est écrit: Dieu avait une église. Hein? Dieu avait une église lorsqu'Adam, Ève et Abel acceptèrent et accueillirent avec joie la bonne nouvelle que Jésus était leur rédempteur. Dieu avait une église déjà là, du temps d'Adam, d'Ève et d'Abel, lorsqu'ils acceptèrent en type le sacrifice que Christ ferait. Je trouvais ça très intéressant parce que l'Église, déjà, elle commençait là. Elle commençait avec Adam et Ève et leurs fils. Pas Caïn, parce que Caïn, lui, n'avait pas le cœur. Parce qu'il l'a démontré, d'ailleurs. Il l'a démontré lorsqu'il est venu à Dieu en lui offrant ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas offrir. Ce n'est pas ça que Dieu y voulait. Dieu ne voulait pas ça. Dieu il voulait que Caïn vienne avec l'offrande d'un cœur contrit, manifesté par une obéissance à la stipulation de Dieu en donnant un sacrifice qui venait représenter le Fils de Dieu, qui viendrait plus tard. Mais Caïn, il n'a pas offert cela, et donc quand Abel a offert cela, Caïn était quoi, nous avons lu? Il le tua parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc c'était de la jalousie du plus au degré qui a poussé Caïn à tuer son frère. Mais pas que de la jalousie, c'était le contraste entre ses œuvres mauvaises et les œuvres justes. Ce n'est pas juste de la jalousie, c'est le contraste entre le péché qu'il nourrissait dans son cœur et le caractère humble et repentant de son frère. C'est ça qui a causé la friction, qui a causé l'opposition et qui a causé la séparation. Oui. Je trouvais ça intéressant parce que même si Abel a été séparé par la mort et donc il n'a pas vraiment été séparé comme ceux qui plus tard seraient séparés, comme nous allons le voir, il y a quand même ce principe ici qui nous est démontré et qui vaut la peine de contempler. Et plus tard, à travers les âges, nous voyons encore une fois ce même principe qui nous est présenté. Mais en ligne bien plus décisive et en harmonie avec celle que nous voyons plus tard se présenter à nous. Dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous lisons le contexte. Nous lisons ici le contexte de cette opposition-là que nous allons voir et de cette séparation. Nous contemplons ici les expériences d'opposition et de séparation. Dans Genèse chapitre 6, verset 12, nous lisons. Donc, tout le chapitre est très intéressant ici, mais j'aimerais que juste on se concentre sur ce qui peut nous permettre d'arriver à une conclusion brève, mais intense. Genèse 6, verset 12, il est écrit « Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » Et ensuite, chapitre 7, verset 1, ou plutôt d'abord, j'aimerais lire chapitre 6, verset 5, « Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. » Et ensuite, le contraste au chapitre 7, verset 1, nous est présenté par ces paroles. Et l'Éternel dit à Noé, « Entre, toi et toute ta maison, dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Donc vous aviez d'un côté la terre qui était corrompue devant Dieu et remplie de violence, et toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et ensuite, Noé qui fut trouvé juste aux yeux de Dieu, et la raison pour laquelle il le choisit pour préparer l'arche et pour appeler les hommes à entrer dans l'arche, ainsi que sa famille. Et dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20, nous lisons également le suivant. Verset 19, pour le contexte. Par l'Esprit, Jésus est allé prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire à travers Noé, l'Esprit de Dieu et Christ par l'Esprit en Noé, est venu prêcher aux esprits en prison, c'est-à-dire aux antédiluviens qui étaient emprisonnés par cet esprit de violence et de corruption et cette imagination qui était tout le temps mauvaise de leur cœur, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, verset 20, qui avaient été autrefois incrédules lorsque, du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, lisez avec moi entre les lignes ici parce que je ne vais pas aller dans les nombreuses déclarations de l'esprit de prophétie qui se trouvent à ce sujet-là, du déluge et des événements qui ont précédé le déluge. Mais vous voyez ici que du milieu de cette génération perverse et corrompue, Noé fut trouvé juste aux yeux de Dieu parce qu'il n'avait pas corrompu sa voix sur la terre, alors à la différence d'eux. Ensuite, Dieu choisit Noé pour prêcher le message du salut à travers l'arche. Ensuite, il prêcha, comme nous le savons, à travers les nombreuses déclarations de l'Esprit et de prophétie, il prêcha ce message, cette vérité, aux antédiluviens. Mais à la fin, nous lisons également dans l'Esprit de prophétie qu'il essuya une lourde opposition. Hein, les calomnies, les rires, les moqueries de la part des antédiluviens qui ne crurent pas, pour la grande majorité d'entre eux, à son message. Et à la fin, que se passa-t-il? Dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc Noé également fit l'expérience de l'opposition et de la séparation. Et combien d'âmes furent sauvées? 8. 8, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'opposition était importante? L'opposition était à ce point importante que seul lui et sa famille entrèrent dans l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu avait établi une limite? Non, parce que eux-mêmes s'étaient rebellés contre le message, l'avaient opposé, et il fut, lui, séparé. Vous comprenez? Parce qu'il est écrit dans, j'y reviens brièvement, dans Genèse, chapitre 7, Genèse, chapitre 7, verset 7. Noé entra donc dans l'arche, et ses fils et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Ils entrèrent donc vers Noé dans l'arche, deux par deux, les animaux de toute chair qui a souffle de vie, et ceux qui vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Donc Noé fut opposé, et ensuite Noé et sa famille furent séparés. Dieu sépara Noé et sa famille de toute cette génération qui finirent par refuser entièrement le message d'avertissement de Dieu. Opposition et séparation. Plus encore, nous nous tournons vers l'expérience, brièvement, d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 2, où il est écrit: Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai, verset 3, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 8, nous lisons, hein, nous allons droit au but ici. Hébreux chapitre 11, verset 8, nous lisons que par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage et partit ne sachant où il allait. Et donc ici, Abraham, plus tard appelé Abraham, fut séparé par vocation pour la préservation de la vérité de Dieu et pour être libre des influences démoralisatrices du paganisme afin de former un caractère différent du monde. Donc, c'est légèrement différent parce que Abraham fut séparé, pas nécessairement après avoir reçu l'opposition, du moins nous ne la lisons pas. Ensuite, nous avons également l'exemple de Moïse qui reçut l'opposition des Égyptiens à cause de sa propre... C'est légèrement différent parce que pour lui, ce fut à cause de sa propre... son attitude déplacée, c'est le moins qu'on puisse dire, quand il tua cet Égyptien à cause des violences attentées contre les Hébreux. Et ensuite, il fut séparé par Dieu, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Il fut séparé pour être qualifié à conduire le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu et en harmonie avec les voies de Dieu. Je suis en train de donner ici un condensé pour que nous puissions voir que ce concept-là, cette expérience d'opposition et de séparation, nous la voyons se réitérer à travers, déjà même dans l'expérience des patriarches, mais surtout après. Simplement, je voulais commencer par ces exemples-là qui me semblaient intéressants. Et maintenant, cela nous amène, frères et sœurs, à l'exemple de Jésus et de la manière dont le peuple de son temps répondit à sa venue et à son ministère et à son œuvre de salut. J'aimerais ici que l'on puisse se tourner vers cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Jésus-Christ à la page 196. Paragraphe 1 et 2, il est écrit ceci. Nous sommes ici en train de contempler les expériences d'opposition et de séparation qu'ont faites les patriarches à travers les âges, comme nous l'avons brièvement parcouru, et qu'a fait également Jésus et ses disciples et son Église primitive, et, comme nous allons le voir, que feront et qu'ont fait également ses fidèles dans les derniers jours. Parce que c'est ça qui nous intéresse, mais nous voulons relever les détails significatifs qui nous aident à nous imbiber à des choses qui se sont déjà passées, par lesquelles nous pouvons avoir un ordre d'idées sur les choses auxquelles nous pouvons nous attendre, comme je l'avais déjà mentionné. Bon, je lis sans plus tarder. Les Juifs, en possession des Écritures, s'imaginaient avoir la vie éternelle par leur simple connaissance extérieure de la parole. Mais Jésus dit, sa parole ne demeure pas en vous. Ayant rejeté Christ dans sa parole, il le rejetait maintenant en sa personne. Vous ne voulez point venir à moi, disait-il, pour avoir la vie. Donc, les Juifs avaient les Écritures, hein, nous lisons cela, ils étaient en possession des Écritures qui parlent de Christ, parce que Jésus, il dit, ce sont elles qui parlent de moi, à un autre endroit. Mais les Juifs s'imaginaient, par cette simple possession des Écritures, qu'ils avaient la vie éternelle par leur simple connaissance extérieure de la parole. Mais Jésus leur disait, sa parole ne demeure pas en vous. Vous la connaissez, mais elle ne demeure pas vraiment. Vous la connaissez, mais elle ne demeure pas. Il faisait une distinction comme cela, le Seigneur. Ensuite, je poursuis. Je poursuis. Les conducteurs juifs avaient étudié l'enseignement des prophètes concernant le royaume du Messie, mais ils l'avaient fait non avec un sincère désir de connaître la vérité, mais pour y trouver une confirmation de leur espérance ambitieuse. Christ était venu d'une manière contraire à leurs attentes. Christ étant venu d'une manière contraire à leurs attentes, ils ne voulaient pas le recevoir. Et pour se justifier, ils s'efforçaient de le faire passer pour un séducteur. Dès qu'il s'était engagé dans cette voie, Satan n'éprouva aucune difficulté à renforcer leur opposition à Christ. Les paroles même qui eussent pu apporter la preuve de sa divinité étaient interprétées contre lui. Ils changèrent ainsi la vérité de Dieu en mensonge, et plus le Sauveur s'adressait à eux directement par des œuvres de miséricorde, plus ils étaient décidés à résister à la lumière. Je lis en suivant à la page 197. Elle cite les paroles « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Jésus était venu investi de l'autorité de Dieu, portant son image, accomplissant sa parole et cherchant sa gloire, la gloire de Dieu, portant l'image de Dieu, accomplissant la parole de Dieu et cherchant la gloire de Dieu. Néanmoins, il ne fut pas reçu par les chefs d'Israël. Quand d'autres viendraient se faisant passer pour Christ, quoique agissant de leur propre gré et cherchant leur propre gloire, ils seraient accueillis. Ou comme c'est écrit littéralement, ils les accueilleraient. Donc il était question de la manière dont les chefs d'Israël agiraient vis-à-vis de ces faux Christ, de ces prétendants qui étaient qui agiraient selon leur propre gré et cherchant leur propre gloire. Ils seraient accueillis. Pourquoi cela? Elle nous demande. Pourquoi cela? Parce que celui qui cherche sa propre gloire fait appel à la recherche de soi-même chez les autres. Les Juifs étaient prêts à répondre à un tel appel. Le faux docteur serait reçu parce qu'ils flatteraient leur orgueil en approuvant leurs opinions préférées et leurs traditions. Mais l'enseignement de Christ ne concordait pas avec leurs idées. C'était un enseignement spirituel qui exigeait le renoncement à soi-même. C'est pourquoi ils ne seraient pas reçus, ou littéralement, ils ne le recevraient pas. C'est l'inverse. Les Juifs ne connaissaient pas Dieu et la voix Dieu faisait entendre par l'intermédiaire de Christ leur semblait la voix d'un étranger. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que quand Dieu parle par son esprit à travers ce qu'il s'est choisi, par leur intermédiaire, cela nous semble comme la voix d'un étranger. Nous disions, non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Christ. Mais considérez ici, parce que comme c'est écrit, celui qui cherche sa propre gloire fait appel à la recherche de soi-même chez les autres. Donc vous voyez, il se peut que nous soyons attirés par celui qui vient en réalité non pas appelé de Dieu, mais de son propre gré. Pourquoi nous sommes attirés par lui? Parce que le fait que lui cherche sa propre gloire par cette activité fait appel à la recherche de l'exaltation de soi, comme c'est écrit littéralement en anglais, fait appel à la recherche de l'exaltation de soi chez les autres. Donc vous voyez, vous allez mettre de côté le fait qu'il n'est pas appelé de Dieu au profit du fait qu'il satisfait votre chair. Quoique Dieu ne l'ait pas amené, que Dieu ne l'ait pas appelé, que Dieu ne l'ait pas approuvé. Donc d'où la nécessité ici, frères et sœurs, de contempler attentivement les paroles du Seigneur pour nous imprégner de l'Esprit de Dieu qui y est contenu, pour que nous soyons mus par l'Esprit qui vient de Dieu, plutôt par l'Esprit qui est motivé par les affections de la chair. De sorte que nous soyons poussés à prendre des décisions dans notre sélection de la vérité et de l'erreur qui soient animés par notre désir de nous satisfaire nous-mêmes. De la même manière que les Juifs l'avaient fait. Hein? Comme c'est écrit, les Juifs étaient prêts à répondre à un tel appel, à l'appel d'un homme qui venait de son propre gré, cherchant sa propre gloire. Mais quand celui qui était venu portant l'image de Dieu, accomplissant la parole de Dieu et cherchant la gloire de Dieu, il ne voulait pas le recevoir. Pourquoi? C'était écrit juste avant. Parce que c'était un enseignement spirituel qui exigeait le renoncement à soi-même. C'est ça, quand vraiment le message qui vient est un message, un enseignement spirituel, cela va appeler à un renoncement à soi-même. Et là, beaucoup de personnes commencent à dire « Ah, mais non, ça ne vient pas de Dieu, ce truc. » Comprenez? Ça ne vient pas de Dieu, mon frère. Non, nous ne voyons pas la vérité. Mais pourquoi on ne voit pas la vérité? Peut-être c'est parce que la vérité est en train de dévoiler des péchés qu'on voulait garder cachés. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est ça le réel dilemme. Pourquoi est-ce que nous sommes en friction avec toute la vérité? Est-ce qu'il y a des choses que nous voulions garder cachées? Hein? Parce que dans ce message-là, Dieu, il ne va rien laisser sous les pierres. Dieu, il va tout dévoiler. Tout dévoiler pour pouvoir purifier le sanctuaire. C'est de ça dont il est question, mes frères et sœurs. La purification du sanctuaire ne se fera que quand nous avons pleine conscience des péchés qui y sont inscrits. Comment, mes frères et sœurs, le Seigneur peut-il nous purifier de péchés dont nous ne sommes pas encore conscients? Plus encore, est-ce que Dieu peut purifier le sanctuaire de péchés dont il ne nous a pas encore informés? Donc cela requiert, cette purification du sanctuaire, un éclairage à nous-mêmes pour que nous puissions venir en accord avec la volonté de Dieu. Mais cela ne peut être fait que lorsque nous acceptons le message qui vient induire toute cette activité de l'éclairage, de l'illumination de nos propres cœurs, pour ensuite pouvoir purifier le sanctuaire du ciel. Vous comprenez? C'est de ça dont il s'agit, mes frères et sœurs. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'une question de surface ici. Hein, certes, nous avons peut-être déjà abandonné beaucoup de péchés. Mais quand Dieu vient avec son dernier message, hein, ce cinquième mouvement d'Apocalypse chapitre 18 verset 4, il est question d'une purification plus approfondie encore, pour parfaire son peuple pour la translation. C'est ça dont il est question, mes frères et sœurs. Et donc je relis la fin pour aller au paragraphe suivant. Les Juifs ne connaissaient pas Dieu et la voix qu'ils faisaient entendre par l'intermédiaire de Christ leur semblait la voix d'un étranger. N'en est-il pas de même aujourd'hui? N'y en a-t-il pas beaucoup, même parmi les chefs religieux, qui endurcissent leur cœur contre le Saint-Esprit et se mettent dans l'impossibilité de reconnaître la voix de Dieu? Ne rejettent-ils pas la parole de Dieu pour garder leur propre tradition? Hein? N'en est-il pas de même aujourd'hui? Du même qu'au temps de Jésus? Est-ce qu'il y a des chefs religieux qui endurcissent leur cœur contre le Saint-Esprit et ainsi se mettent dans l'impossibilité de pouvoir reconnaître la voix de Dieu? Hein? C'est ça le problème, mes frères et sœurs. C'est que si nous endurcissons nos cœurs contre le Saint-Esprit qui est en train d'essayer de nous parler, eh bien, nous allons nous mettre nous-mêmes dans la possibilité de pouvoir reconnaître la voix de Dieu à travers ses serviteurs. C'est ça, mes frères et sœurs. Parce que, comme c'est écrit dans l'esprit de prophétie, ces anges d'Apocalypse chapitre 14 et aussi d'Apocalypse chapitre 18 représentent le peuple qui ont ce message à donner au monde. Et ensuite, elle pose la question, êtes-vous parmi ce peuple? Donc, l'ange, c'est quoi? C'est un peuple. Et cette voix du verset 4 de Apocalypse chapitre 18, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple. Et la question est, êtes-vous parmi ce peuple? Mais comment pouvons-nous être parmi ce peuple si nous résistons à l'Esprit de Dieu qui cherche à parler à travers ce peuple? Il faut d'abord accepter d'être instruit pour pouvoir instruire. Le jour, frères et sœurs, où nous décidons que nous ne pouvons plus, ne voulons plus être instruits par quiconque d'autre que ceux qui nous ont instruits dans le passé, que nous avions approuvés, c'est le moment où Dieu ne peut plus nous utiliser. Et oui, c'est sérieux. C'est parce que c'est ici l'enseignement spirituel qui appelle et qui exige un renoncement à soi-même. J'aimerais poursuivre dans la citation suivante qui se trouve dans Jésus-Christ à la page 293, paragraphe 2, et à la page 294, paragraphe 1. C'est intéressant ici. Considère avec moi les pensées de Jésus et la manière dont Jésus abordait cette difficulté à laquelle il savait que ses disciples allaient être confrontés. Je trouve ça très intéressant de pouvoir combiner ces deux aspects-là parce que ça permet de ne pas juste parler de « Oh Dieu, il vous aime et tout », mais on ne parle pas de l'aspect prophétique. Et donc vous ne savez même pas où vous êtes. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous pouvez leur dire tant que vous voulez que Jésus vous aime. S'ils ne savent pas où ils sont dans la prophétie, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils sont dans l'obscurité. Nous avons besoin de l'étoile du matin, qu'elle puisse se lever dans nos cœurs et éclairer nos ténèbres, pour que nous puissions savoir où nous sommes dans l'histoire de la terre au regard de la prophétie de Dieu. C'est ça que nous voulons savoir, pour avoir tout de Dieu, pas juste une partie que vous avez sélectionnée, et vous ne voulez plus parler de la prophétie parce que oh, la prophétie c'est compliqué, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais bon, on ne pourra jamais être sûr si vous n'êtes pas sûr. Il faut chercher la parole de Dieu. Et nous avons reçu la lumière à travers les illuminations de l'esprit de prophétie et le soutien qu'elle a donné aux écrits d'Uriah Smith et dans son livre Daniel et l'Apocalypse. Nous savons tout, mes frères et sœurs. Si vous ne savez pas, vous avez une question, vous me posez la question, vous m'appelez, je vous dis ce qu'il y a écrit dans l'anglais. Je n'ai aucune autre méthode et manière et façon de pouvoir vous communiquer cette vérité parce que le livre en français, c'est un abrégé. Le livre de Uriah Smith, Daniel and the Revelation. Je lis ici dans Jésus-Christ à la page 293, paragraphe 2. Après avoir défini le vrai bonheur et avoir indiqué les conditions à remplir pour l'obtenir, Jésus expliqua plus clairement à ses disciples leur devoir en tant que maître choisi de Dieu pour conduire les hommes dans les sentiers de la justice et de la vie éternelle. Jésus savait qu'il serait souvent exposé aux déceptions et au découragement, à l'opposition la plus acharnée, aux injures, et que leur témoignage serait rejeté. Il savait bien qu'en accomplissant leur mission, ces humbles hommes qui l'écoutaient si attentivement auraient à souffrir la calomnie, les supplices, l'emprisonnement et la mort. C'est pourquoi il continua « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Maintenant, écoutez ce troisième paragraphe ici. C'est très intéressant ce qui est présenté là. Le monde aime le péché et il hait la justice, et c'est pour cela qu'il se montra si hostile à l'égard de Jésus. Tous ceux qui refusent son amour infini considéreront le christianisme comme un élément de trouble. La lumière de Christ dissipe les ténèbres qui enveloppent leurs péchés et rend manifeste le besoin de réforme, alors que ceux qui cèdent à l'influence du Saint-Esprit entrent en guerre avec eux-mêmes, ceux qui restent attachés au péché font la guerre à la vérité et à ses représentants. Vous avez saisi? Qu'est-ce que ceux qui refusent l'amour infini de Dieu, quelle sera leur perspective sur le christianisme? Ce sera pour eux un élément de trouble. Mais plus encore, vous voyez, ceux qui cèdent à l'influence du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en guerre avec eux-mêmes. Ils entrent dans ce renoncement à eux-mêmes. Ils s'examinent eux-mêmes. Ils s'efforcent d'amener leur caractère en harmonie avec le caractère de Dieu et l'exemple de Christ. Mais le contraste, hein, comme nous l'avions vu avec Abel et Caïn, le contraste, c'est que ceux qui restent attachés au péché, hein, comme nous l'avions vu juste avant, comme les Juifs, ceux qui restent attachés au péché, contre qui vont-ils faire la guerre? Pas contre leur péché, parce qu'ils veulent le garder. Ils vont donc faire la guerre à la vérité et à ses représentants. Et après, ils vont accumuler toutes sortes d'accusations, de mauvaises représentations, de calomnies, etc., etc. Présentant ses représentants sous un faux jour, etc., etc. Font la guerre à la vérité et à ses représentants. Parce que la lumière a rendu manifeste le besoin de réforme et ils ne le veulent. Nous sommes ici en train d'examiner à la fois les expériences d'opposition et de séparation et les principes sous-jacents à l'opposition et qui expriment et qui font comprendre pourquoi le besoin de séparation ultérieure est devenu et devient si grand. Je lis maintenant dans Jésus-Christ, à la page 346, paragraphe 4, jusqu'à la page 347. Et maintenant, frères et sœurs, contemplez avec moi. Je vous invite à contempler avec moi les ramifications ici de ce que cela veut dire pour nous d'accepter la vérité et dans quelle mesure sommes-nous appelés à accepter la vérité vis-à-vis de notre engagement. J'ai utilisé un mot qui est présent ici dans cette déclaration. Vous allez pouvoir maintenant le relever dès qu'il se présente. Je lis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le prince du ciel a été appelé Belzébul et ses disciples seront calomniés de la même manière. Les disciples de Christ, fuyant toute dissimulation, doivent confesser leurs principes, quel que soit le danger. Ils ne peuvent pas rester sans prendre d'engagement tant qu'ils ne se sont pas assurés d'être en sécurité en confessant la vérité. Ils sont placés comme des sentinelles pour avertir les hommes du péril. Ils doivent communiquer à tous, gratuitement et ouvertement, la vérité qu'ils ont reçue de Christ. Jésus a dit, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Donc avant que je continue ici, vous avez vu ici le principe qui nous est présenté à travers l'esprit de prophétie. Hein, je vous rappelle, nous sommes dans Jésus-Christ à la page 346, c'est paragraphe 4. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Que doivent faire les disciples de Christ? Hein, du temps de Christ et du temps d'aujourd'hui, parce que l'esprit de prophétie c'est pour les derniers jours, donc de toute évidence c'est pour maintenant. C'est pour nous. Les disciples de Christ, fuyant toute dissimulation, doivent confesser leurs principes, quel que soit le danger. Ils ne peuvent pas rester sans prendre d'engagement tant qu'ils ne se sont pas assurés d'être en sécurité en confessant la vérité. Vous avez compris la phrase là? En d'autres termes, frères et sœurs, la parole, l'esprit de prophétie est en train de nous montrer que l'attitude de Nicodème n'est pas un exemple à suivre. Vous vous souvenez de Nicodème, qui est venu à Jésus dans Jean chapitre 3, si je ne m'abuse. Et Jésus a eu cette entrevue avec Nicodème, qui était venu lui poser des questions, et Nicodème était très intéressé, fasciné, ému, comme nous le lisons dans l'esprit des prophéties, par son entretien avec le Seigneur. Seulement, il n'a pas pris de décision tout de suite. Eh bien, cela, mes frères et sœurs, ce n'est pas un exemple qu'il s'y est pour nous de suivre aujourd'hui. D'autant plus en ces derniers jours. Donc, je pense que c'est important de bien prendre au sérieux ce qui est écrit. Lorsque nous croyons quelque chose, que nous le croyons de tout notre cœur, nous devrions, quoi ? Fuir toute dissimulation. Ne le dissimulez pas, mes frères et sœurs. Ne le dissimulez pas. Vous croyez quelque chose? Les disciples de Christ devraient confesser leurs principes, quel que soit le danger. Ah, il y a peut-être un danger. Hein. La vérité, c'est dangereux, mes frères et sœurs. Et donc, pour confesser la vérité, il y a un danger. Mais les disciples de Christ, fuyant toute dissimulation, doivent confesser leurs principes, quel que soit le danger. S'ils ont reçu quelques lumières, est-ce qu'il faut qu'ils la gardent en silence pendant un moment? La phrase suivante nous dit encore plus sérieusement ici. Ils ne peuvent pas rester sans prendre d'engagement tant qu'ils ne se sont pas assurés d'être en sécurité en confessant la vérité. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc ici, j'ai reçu une vérité, mais je ne vais pas encore m'engager, je ne vais pas encore prendre d'engagement tant que je n'ai pas l'assurance que je serai en sécurité si je la confesse. L'esprit de prophétie dit qu'on ne devrait pas faire ça. Ils ne peuvent pas rester sans prendre d'engagement, tant qu'ils ne se sont pas assurés d'être en sécurité en confessant la vérité. Vous allez attendre que tous les dangers disparaissent pour pouvoir la confesser, la vérité? Mais quand viendra ce moment, mes frères et sœurs? Je vais vous dire, le moment ne vient jamais et ensuite ça va s'aggraver. C'est ça la réalité. Si vous attendez, le diable, il va vous enfoncer plus encore. Ah, tu veux attendre? Je vais te faire plus attendre encore. Tu veux te taire? Je vais te faire plus te taire encore. Tu veux te cacher? Tu vas encore plus te dissimuler. C'est ça, mes frères et sœurs, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il faut casser le joug. Si vous ne prenez pas d'engagement, je vais vous dire, ça ne va pas devenir plus facile, ça va devenir plus compliqué. Quand est-ce que Nicodème a dû, jusqu'à quand est-ce que Nicodème il a dû attendre? Il a dit, bon, j'attends. En plus, le Seigneur, il était mort. Voilà quand est-ce qu'il a pu confesser Christ. Quand Christ, il était mort. Quand est-ce que vous allez confesser le Seigneur et sa vérité? Quand le Seigneur, il est mort? Quand il y a des gens qui ont perdu leur vie ou quand il y a des accidents tragiques qui sont arrivés, c'est ça que vous allez attendre? C'est sérieux, mes frères et sœurs. Je continue. Jésus lui-même n'a jamais acquis la paix au prix d'un compromis. Bien que son cœur débordât d'amour pour toute la famille humaine, il n'eut pas de faiblesse pour leurs péchés, aimant trop les hommes pour garder le silence alors qu'il voyait courir à la ruine ses âmes rachetées au prix de son sang. Il s'efforçait d'obtenir que l'homme fût fidèle à lui-même, à ses intérêts supérieurs et éternels. Les serviteurs de Christ accompliront la même œuvre et prendront garde qu'en voulant prévenir la discorde, ils ne sacrifient la vérité. Ils doivent rechercher les choses qui tendent à la paix. Cependant, une paix réelle ne peut être obtenue en trahissant des principes et personne ne peut rester fidèle à un principe sans provoquer de l'opposition. Un christianisme vraiment spirituel suscitera l'antagonisme des enfants de la désobéissance. Mais Jésus dit aux disciples, ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme. Ceux qui sont fidèles à Dieu n'ont pas à craindre le pouvoir des hommes ni l'inimitié de Satan. En Christ, la vie éternelle est assurée. Leur seule crainte devrait être d'abandonner la vérité et de trahir ainsi la confiance dont Dieu les a honorés. Quelle devrait être leur seule crainte? D'abandonner la vérité et de trahir la confiance dont Dieu les a honorés. Donc, est-ce que vous avez retenu la leçon ici, mes frères? Jésus n'a jamais acquis la paix au prix d'un compromis. Donc si nous obtenons la paix, au prix d'un compromis, ce n'est pas suivre l'exemple de Jésus. Nous sommes en train de faire contraire à l'exemple de Jésus. Son cœur débordait pour la famille humaine, mais il n'avait pas tant de faiblesse pour leurs péchés qu'il allait garder le silence alors qu'il les voyait courir à leur ruine. Et donc il est écrit que nous devrions prendre garde qu'en voulant prévenir la discorde, nous ne sacrifions la vérité. Ah, nous avons de la discorde, mon frère, bon, on va juste... Oh, On va juste se taire un petit peu pour... Ah, on veut calmer le jeu, mon frère. Ce n'est pas ça la manière. Les serviteurs de Christ accompliront la même œuvre et prendront garde qu'en voulant prévenir la discorde, ils ne sacrifient la vérité. Alors oui, ils doivent rechercher les choses qui tendent à la paix. Nous devons faire tout pour garder la paix, mais pas au prix de la vérité, pas avec un compromis. Le Seigneur n'a pas fait cela. Et notez bien cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase. Une paix, cependant, une paix réelle ne peut être obtenue en trahissant des principes, et personne ne peut rester fidèle à un principe sans provoquer de l'opposition. Et donc prenez courage, mes frères et sœurs. Vous voyez les paroles de Jésus quand il dit « Réjouissez-vous et tressaillez de joie ». On ne peut pas comprendre ça tant qu'on n'a pas fait ça. Parce que si nous lisons ces paroles et nous disons « Ouais, nous nous réjouissons hein, », non, mes frères et sœurs, attendez un peu. Attendez de vraiment souffrir pour pouvoir vous réjouir. Parce que sinon, c'est superficiel. Ce n'est pas ça que le Seigneur disait. Quand le Seigneur il annonçait ces paroles-là, c'était en vue des réelles souffrances internes et intenses que les disciples allaient endurer lorsqu'ils allaient se voir recevoir une terrible opposition de la part des personnes qu'ils espéraient sauver. C'est ça, vraiment. Et là, à ce moment, ils pourraient se souvenir du Seigneur qui avait dit « Réjouissez-vous et tressaillez de joie. » Lorsque Étienne, il était en train de se faire lapider, hein, parce que pour l'amour de Christ, parce qu'il avait dit la vérité, il aurait pu se souvenir, réjouissez-vous et tressaillez de joie. Mais réjouissez-vous et tressaillez de joie, ce n'est pas fait pour quand vous êtes tranquillement assis dans votre canapé en train de regarder la télévision. Ne vous réjouissez pas là. Ou parce que vous avez compromis la vérité afin d'avoir la tranquillité. Ne vous réjouissez pas là. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas la bonne application. Il ne faut pas que nous sacrifions la vérité pour prévenir la discorde. Et il faut que nous soyons conscients que personne ne peut rester fidèle. C'est ça. Personne ne peut rester fidèle à un principe sans provoquer de l'opposition. Donc si nous sommes en train de maintenir des principes ici, fermement, nous devons être conscients du fait que nous ne pouvons faire cela sans provoquer l'opposition. Donc si l'opposition vient, que nous examinons nos cœurs et qu'ils sont en harmonie avec Dieu et que nous n'avons pas délibérément cherché à offenser notre prochain ou à lui faire du mal, alors nous pouvons avoir la paix de l'âme et de l'esprit que nous avons suivi les directives du Seigneur et que nous sommes en harmonie avec sa parole. Et alors nous pouvons nous réjouir. Nous réjouir de l'opposition et nous réjouir de la séparation. Parce que justement, j'aimerais lire à quel point cela s'applique. Cela, tous ces principes s'appliquent au peuple de Dieu en ces derniers jours. Nous le voyons à travers les paroles de la Review and Herald du 28 août 1883 et paragraphe 13. Vous voyez ici le lien entre l'expérience que Jésus a faite en lien avec les Juifs, et que l'Église de Dieu en ces derniers jours fera et fait. Je lis, « L'opposition que rencontra Christ venait de sa propre nation qui aurait été grandement bénie si elle l'avait acceptée. De la même manière, les membres de l'Église du reste rencontrent l'opposition de ceux qui prétendent être leurs frères. » Est-ce que vous avez noté? Qui rencontre cette opposition? Les membres de l'Église du reste rencontrent l'opposition de ceux qui prétendent être leurs frères. de la même manière que Jésus rencontra l'opposition de sa propre nation, de sa propre Église, qui aurait mieux fait et qui aurait été grandement bénie si elle l'avait accepté. Et donc l'Église du reste, comme nous le savons, si nous avons contemplé bien attentivement les dévoilements prophétiques sur l'identité de l'Église de Dieu en ces derniers jours, les restes de la postérité de la femme, comme nous le voyons dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, ils se retrouvent confrontés à une opposition qui découle de compréhension de la vérité qui sont des traditions humaines que Dieu n'a pas sanctionnées. Ils sont confrontés à une opposition, et cette opposition à laquelle ils sont confrontés, elle découle de mauvaises compréhensions de la vérité qui sont elles-mêmes des traditions que Dieu n'a jamais sanctionnées. J'aimerais ici lire ces paroles de la Tragédie des siècles à la page 492 et paragraphe 4. En entendant présenter les droits du sabbat, plusieurs raisonnaient de la façon suivante. Nous avons toujours observé le dimanche, nos pères l'ont observé, un grand nombre d'hommes bons et pieux l'ont aussi observé et sont morts heureux. S'ils étaient dans la bonne voie, nous y sommes aussi. L'observation de ce nouveau jour de repos nous brouillerait avec le monde et nous priverait de toute influence sur notre entourage. Que peut faire un petit groupe d'observateurs du septième jour contre tout un monde d'observateurs du dimanche? C'est par des arguments du même genre que les Juifs tentaient de justifier leur rejet de Christ. Leur père avait été béni de Dieu en offrant leur sacrifice. Pourquoi leurs enfants n'obtiendrait-il pas le salut de la même manière? Au temps de Luther, de même, les papistes disaient que de vrais chrétiens étaient morts dans la foi catholique et que, par conséquent, leur religion était suffisante pour assurer le salut. Un tel raisonnement aboutit à la suppression de tout progrès dans la foi et la vie religieuse. Un tel raisonnement aboutit à quoi? À la suppression de tout progrès dans la foi et la vie religieuse, de telle sorte que quoi? Que si Dieu, et en effet, quand Dieu susciterait une nouvelle activité, un nouveau mouvement, eh bien si nous avons ce raisonnement, cela empêcherait tout progrès dans la foi et la vie religieuse. Pourquoi? Parce que nous pourrions aussi tout autant dire, comme eux, ils avaient dit, nous avons toujours observé le dimanche. Nos pères l'ont observé, un grand nombre d'hommes bons et pieux l'ont observé et sont morts heureux. S'ils étaient dans la bonne voie, nous y sommes aussi. Vous comprenez? Nous pourrions toujours être en proie à utiliser ce raisonnement. Non, nous, ça a fonctionné comme ça et on va continuer comme ça. Les traditions. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est cet esprit. Cet esprit de vouloir rester comme les choses ont été. J'aimerais ici lire cette déclaration suivante. Dans Jésus-Christ à la page 213 et paragraphe 3. Si Christ avait été reçu par les conducteurs d'Israël, il leur aurait conféré l'honneur de devenir ses messagers pour porter l'évangile au monde. C'est à eux en premier lieu que l'occasion fut offerte d'être les héros du royaume et de la grâce de Dieu. Israël, toutefois, ne connut pas l'heure de sa visitation. La jalousie et la méfiance des conducteurs juifs s'étaient transformées en une haine ouverte et les cœurs s'étaient détournés de Jésus. Ayant rejeté le message de Christ, le Sanhédrin cherchait à le faire mourir. Aussi Jésus s'éloigna-t-il de Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs religieux, de ceux qui avaient été instruits quant à la loi, et il se tourna vers une autre classe d'auditeurs pour leur annoncer son message et recruter parmi eux ceux qui porteraient l'évangile aux nations. Donc vous voyez ici que le Sanhédrin a rejeté Christ, hein, comme nous l'avons vu juste avant. Il était prêt à faire d'eux les messagers de son évangile, mais ils n'ont pas reconnu le jour de leur visitation, ils n'ont pas reconnu quand le Messie était venu, parce qu'ils s'attendaient à quelque chose qui satisferait leurs attentes, pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ayant rejeté le message, ils cherchaient maintenant à le faire mourir. Et donc, que fit Jésus? Que fit Jésus? Vous voyez ici, il est question de cette expérience d'opposition et de séparation. Jusqu'ici, nous avons surtout contemplé l'activité d'opposition et comment les patriarches ont réagi à cette opposition et comment l'esprit de prophétie nous éduque et nous apprend à réagir face à cette opposition. Et nous voyons ici comment Jésus a réagi tangiblement à cette opposition qu'il a rencontrée de la part des chefs religieux de son temps, les Juifs. Il s'éloigna de Jérusalem, hein. Ayant rejeté le message de Christ, le Sanhédrin cherchait à le faire mourir. Aussi, notez bien, Jésus s'éloigna de Jérusalem, des prêtres, du temple, des conducteurs religieux, de ceux qui avaient été instruits quant à la loi, et il se tourna vers une autre classe d'auditeurs pour leur annoncer son message et recruter parmi eux ceux qui porteraient l'évangile aux nations. Vous voyez ici, opposition et séparation. Jésus rencontra, subit, essuya l'opposition des Juifs, et ensuite, il s'éloigna, pour autant dire, il se sépara. Hein, parce qu'il est écrit, la liste, elle est longue. Hein. Jérusalem, donc la ville, donc c'était quoi? C'est le quartier général de l'Église, quoi. Les prêtres, le sacerdoce, le temple, les conducteurs religieux, ceux qui avaient été instruits quant à la loi, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. Il s'est éloigné de tout. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et il allait où? En Galilée. Il a quitté la Judée et il allait en Galilée. C'est ça? Vous voyez? Jésus s'est séparé. Séparé de qui? De son Église. C'est écrit, n'est-ce pas? Et il s'est tourné vers une autre classe d'auditeurs, une autre classe, en Galilée. C'était beaucoup de Samaritains ou de personnes un peu de toutes les races qui venaient, qui traversaient la Palestine pour aller d'un endroit à un autre. Donc il a complètement quitté la Judée. Et maintenant, nous voyons comment cela s'applique à ces derniers jours. Dans le paragraphe suivant, nous sommes toujours dans Jésus-Christ, page 213 et page 214. Je lis. De même que la lumière et la vie des hommes furent rejetées par les autorités ecclésiastiques au jour de Christ, de même, elle a été rejetée au cours de toutes les générations suivantes. À maintes reprises, Christ a dû se retirer comme il l'avait fait de Judée. Dans les générations suivantes, après ce retrait initial, Jésus a dû le faire à maintes reprises, a dû le faire de nouveau. Vous comprenez? Mais dans la personne de ses disciples, de ses saints, de son peuple, de son Église. À maintes reprises, Christ a dû se retirer comme il l'avait fait de Judée. Donc, à chaque fois, le processus s'est répété. Quand les réformateurs ont annoncé la parole de Dieu, ils ne songeaient nullement à se séparer de l'Église établie. Hein? Les réformateurs, Luther, Calvin, Zwingli, et j'en passe, Jean Hus, Jérôme, quelle était l'Église établie? Rome. Rome. D'ailleurs, j'attire votre attention vers le fait que la traduction française, elle écrit « les églises établies ». Non, 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 je suis désolé, ce n'est pas ça qui est écrit. Il y a marqué « the established church », sans S. Il n'y avait qu'une seule église établie. Ça induit en erreur, cela. Les réformateurs ne songeaient nullement à se séparer de l'église établie. Il n'y en avait qu'une seule, c'était l'église de Rome. Et ils n'avaient aucunement à l'idée de se séparer d'elle. Ils voulaient la réformer de l'intérieur. Notez bien, mes frères et sœurs, ils voulaient la réformer de l'intérieur. Initialement, c'était leur projet. Ils n'avaient nullement à l'idée de se séparer d'elle. Ce n'était pas dans leur optique. Mais quoi? Mais les conducteurs religieux ne voulaient pas tolérer la lumière et ceux qui en étaient les porteurs furent contraints de chercher une autre classe avide de la vérité, comme Jésus. De la même manière que le Seigneur l'avait fait de son temps, du premier avènement. Cela s'est répété avec les réformateurs. Ils ne songeaient pas à se retirer, à se séparer de l'Église établie. Ils n'y songeaient pas. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Oui. Pourquoi? Parce que les conducteurs religieux ne voulaient pas tolérer la lumière. Vous avez un élément indicateur très précis ici, qui permet de tracer des lignes bien distinctes dans nos actions et dans la prise de mesure qui est la nôtre en réponse directe aux actions des conducteurs religieux. Lorsque les conducteurs religieux choisir qu'ils ne voulaient pas tolérer la lumière que les réformateurs recevaient par les lectures et leur étude de la parole de Dieu. Qu'est-ce que les réformateurs ont été contraints de faire? Ils ont été contraints de chercher une autre classe. Donc ils se sont tournés vers une autre classe, mais comment ont-ils fait cela? Ils se sont séparés. Ils se sont séparés de sorte que leur existence devenait complètement distincte de celle de l'Église de Rome. Ce devenait autre chose. Ils ont formé les églises protestantes. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. Je continue. De nos jours, hein, maintenant, c'est ce qui nous intéresse. De nos jours, il y en a peu parmi ceux qui prétendent suivre les réformateurs, qui sont animés par leur esprit. Rares sont les personnes qui écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité d'où qu'elle vienne, ou littéralement, sous quelque forme qu'elle se présente. C'est intéressant, d'où qu'elle vienne, sous quelque forme qu'elle se présente. Il y en a peu qui sont prêtes à écouter la voix de Dieu et à accepter la vérité sous quelque forme qu'elle se présente. Donc même si elle vient d'une personne d'une humble condition, d'une humble profession, sans aucun grade, sans aucun titre, rien, zéro. Il y en a peu qui ont ça, peu qui sont animés de l'esprit des réformateurs. Hein, rappelez-vous, ce n'étaient pas des personnes très éduquées, n'étaient pas vraiment qualifiées selon nos propres définitions. Mais Dieu les choisit pour former l'Église de Dieu visible. Vous voyez cela? Rares sont les personnes qui écoutent la voix de Dieu, prêtes à accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Souvent, ceux qui marchent sur les traces des réformateurs se voient forcés d'abandonner les églises qu'ils aiment afin de pouvoir librement enseigner les claires vérités de la parole de Dieu. Et il arrive souvent que ceux qui cherchent la lumière se voient contraints par ce même enseignement à quitter l'église de leur père pour obéir à leurs nouvelles convictions. Ou pour pouvoir lui obéir, comme c'est écrit littéralement, pour pouvoir obéir à cette nouvelle lumière qu'ils ont cherchée, mais que leur église ne tolère pas. Ils se voient contraints par ce même enseignement à quitter l'église de leur père pour obéir à leurs nouvelles convictions. Et donc, ça nous amène, hein, je vais essayer de conclure, vers ce passage que j'avais lu en lecture biblique dans Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66, versets 1 à 2 et verset 5. Ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elles, dit l'Éternel. Et voici à qui je regarderai, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Vos frères qui vous haïssaient et qui vous rejetaient à cause de mon nom ont dit que l'Éternel montre sa gloire. Il sera donc vu à votre joie, mais eux seront honteux. Je viens de lire la dernière partie, comme elle est marquée dans la Bible Osterwald de 1886. Ils seront donc vus à votre joie. Il sera. Christ, quand il vient, sera donc vu à votre joie, mais eux qui vous ont rejeté seront honteux. Donc vous voyez ici, Dieu montre bien ici, il qualifie bien par sa parole qu'en ces derniers jours, il y aurait bel et bien, et tel est le cœur de l'expérience qui est faite par ce peuple qui se retrouve un tout petit reste. Les restes de la postérité de la femme dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Celui qui est le vainqueur et qui s'efforce d'être le vainqueur d'Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui ouvre la porte à Jésus pour souper avec lui et qui passe dans cette transition de l'église militante à l'église triomphante. C'est une transition. De telle manière que dans le verset 21, il est présenté comme, par ces paroles-là, par Jésus, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais l'expérience qu'ils font pour en arriver à ce stade-là, c'est qu'ils sont, ou du moins ils font l'expérience d'un rejet. Et ils rencontrent l'opposition et ils sont séparés. Dieu lui-même les sépare pour lui-même, mais ils sont aussi eux-mêmes séparés par les autres. Ils sont rejetés. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole. Vous tremblez à sa parole. Mais vos frères qui vous haïssaient et qui vous rejetaient à cause de mon nom ont dit que l'Éternel montre sa gloire. Donc ils disent, bon, on s'est débarrassé d'eux, enfin, c'est bon, maintenant on est tranquille. Oh, gloire à Dieu. C'est ça l'idée. C'est que les personnes qui vous rejettent, ce sont des personnes religieuses. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils disent que l'Éternel montre sa gloire. C'est une expression. Ce n'est pas forcément une expression littérale qu'ils diront, mais dans l'idée, c'est ça. Et disons, gloire à Dieu, nous avons terminé notre réunion administrative, ces personnes-là sont radiées. Gloire à Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Christ, mais ils ont les formes, les cérémonies, les réunions, les pouvoirs ecclésiastiques. Vous comprenez? Mais Dieu, il dit, Jésus, vous le verrez et vous vous réjouirez. Mais eux, ils seront dégoûtés. C'est ça qu'il dit Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et Dieu, il fait comprendre ici à qui il regardera. Il ne regardera pas la personne du verset 3 et 4. Hein? Pour eux, égorger un bœuf est comme tuer un homme, sacrifier une brebis comme abattre un chien, présenter une offrande comme répandre le sang d'un pourceau, faire un parfum d'encens comme bénir une idole, puisqu'ils ont choisi leur voie et que leur âme prend plaisir à leur abomination. De qui parle-t-il ici? Des personnes qui offrent des sacrifices, des personnes qui offrent un culte à Dieu. Dieu, il dit, c'est quoi? Je ne comprends pas, je ne peux pas. Mais il dit, mais il y a un peuple. Il y a un peuple. Voici à qui je regarderai, dit-il au verset 2. C'est notre conclusion. Voici à qui je regarderai. Je ne regarderai pas à ceux qui ont perdu le goût de la spiritualité, des formes du culte. Je regarderai à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui croit, qui tremble à ma parole. C'est-à-dire que c'est un peuple ici, que dès que vous parlez de la parole de Dieu, il dit, attends, sois sérieux un peu, sois sérieux, c'est la parole de Dieu. Hein, de prions, réfléchissons attentivement à ce qui est dit ici. Ne manipulez pas la parole là comme si c'est un bouquin n'importe lequel. Non, ces personnes-là, et te diront, attends mon frère, attends, c'est important, c'est l'inspiration mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Qui tremble à la parole. Quand vous présentez la parole, c'est un peuple qui dira, qui réfléchira et dit, qu'est-ce que le Seigneur il dit? Qu'est-ce que le Seigneur il veut me dire? Hein? Pas comme ces autres personnes qui... Ils tuent un bœuf, c'est comme s'ils tuaient un homme. Ils sacrifient une brebis, c'est comme s'ils abattaient un chien. Ils n'ont pas la distinction des choses spirituelles. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Caïn, il était endurci dans son cœur. Il venait avec son offrande qui ne correspondait pas à ce que Dieu avait demandé, mais il était endurci. Il ne rougissait pas de ce qu'il faisait le mal. Par contre, Abel, qui était un cœur contrit, il venait à Dieu, « Seigneur, je viens présenter cette offrande qui représente l'agneau de Dieu crucifié pour mes péchés. » Il était en adoration devant Dieu quand il présentait son offrande. Et Caïn, il disait, « Mais je veux le tuer, lui. Pourquoi il fait ça, là? Pourquoi il fait... C'est quoi, ça ?» Vous comprenez cet antagonisme? Si on est fidèle au principe, on ne peut que susciter l'antagonisme. Et donc, puissions-nous, frères et sœurs, continuez de trembler à la parole de Dieu, même si cela suscite l'opposition. Laissez l'opposition couler sur vous, comme ces brebis qui vont à l'abattoir sans faire un bruit, comme c'est marqué dans Ésaïe chapitre 53. De la même manière que Jésus, lui, ne faisait pas de bruit. Jésus, lui, ne rendait pas d'outrage quand il était outragé. C'est l'esprit de ces personnes qui aiment Dieu, qui sont humbles, qui ont l'esprit abattu et qui tremblent à la parole de Dieu. Puissions-nous, mes frères et sœurs, être ces telles personnes, manifester notre accord avec l'esprit de cette voix du ciel, pour que nous puissions nous-mêmes être touchés par la voix qui descend du ciel, à travers sa parole, à travers l'esprit de prophétie, à travers ses représentants. C'est ma prière, que le Seigneur puisse nous bénir par son esprit, renfermer les choses qu'il a énoncées et continuer son œuvre de scellement pour que nous puissions parvenir à cette pleine préparation pour le second avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.